Bah écoute, merci en tous les cas de ton invitation, Frédéric. Et donc, moi, je suis Michel Brébion. Je suis nouveau directeur événementiel et relations publiques d'MV Group. Mais j'étais auparavant directeur du département B2B depuis 10 ans, parce que j'avais créé ce département. Et donc, effectivement, j'ai accompagné des centaines de clients B2B dans leur stratégie. Et je me suis lancé dans l'aventure que tu connais bien d'écrire un livre. C'est pas facile. Ça demande beaucoup de travail, mais écoutez, voilà, j'ai accouché de ce livre de 300 pages de 90 pas influence. Et je suis le fondateur organisateur d'un événement qui s'appelle Intelligence Marketing Day, qui a lieu aussi à Rennes. Donc voilà un petit peu mon parcours.
Ouais, alors justement, à qui s'adresse ce livre 90 pas influence? Parce que c'est un livre spécialement fait pour le B2B. Alors dis-nous un petit peu pourquoi tu as écrit ce bouquin-là et pourquoi maintenant?
Alors déjà, alors je l'ai écrit parce que bah, ça ne me rajeunit pas, mais ça fait 30 ans que je fais du marketing B2B. Bon, je changeais un petit peu d'axe en allant sur la partie événementielle que j'aime aussi. Et donc, il y avait sans doute une forme de partage de ma part souhaitée, comme on le fait dans l'événementiel. J'étais sans doute un point de ma carrière où je me disais, bah, j'ai des choses à raconter, j'ai une expérience à partager. Le livre est vraiment présenté avec des cas clients, avec des méthodos, des exemples. Donc en fait, quand on écrit, on a un sentiment d'imposteur, on ne sait pas trop si on peut le faire, on ne sait pas si ce qu'on va dire est intéressant, faut être franc. On se pose des questions sur le contenu parce qu'il y a déjà beaucoup de sujets qui sont traités. Donc est-ce qu'on a le bon sujet? Est-ce qu'on a des choses à raconter? Voilà, je crois que ça part avant tout d'une envie de partage. Et c'est ça qui nourrit un petit peu l'ensemble. Et donc, on a un point de rupture majeur du marketing B2B. Ce point de rupture, il a plein d'enjeux majeurs. Il y a un point de rupture qui est effectivement technologique avec l'IA, mais ce n'est pas ce que j'aborde dans le livre. J'aborde quasiment pas l'IA volontairement. Et je me recentre sur quelque chose qui me parle beaucoup, c'est l'humain. D'ailleurs, aujourd'hui, l'IA ne fonctionne pas sans l'humain. Hein. C'est un duo IA-humain. Et donc, bah, je suis sur l'humain. Et sur l'humain, bah, il y a aussi des points de rupture majeurs dans la relation au business. Ces points de rupture, ils sont de plusieurs raisons. Il y a premièrement, une difficulté à capter l'attention des décideurs, qui est majeure.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Alors là, je te rejoins à 2000%. Là, par exemple, au mois de mai, on a lancé une série de webinaires et la vache, la galère, malgré, par exemple, j'ai fait un webinaire avec Stéphane Truffen et Philippe Gasso, que tu connais extrêmement bien. Et c'est vrai que pour faire venir 100 personnes à un webinaire avec nos audiences et tout ça, on a galéré. J'ai fait un autre webinaire avec Philippe Guéhenneuc de Zenbaya. C'est vrai qu'on a eu 50, 60 personnes et c'était compliqué. Là, il faut trouver vraiment l'angle, le sujet. Et moi, je dis toujours que le temps d'une personne est tellement précieux qu'il faut lui apporter de la valeur. Je dis toujours qu'il faut que, si tu t'accordes une heure, il faut au moins qu'il gagne 4 heures avec ça. Si tu accordes une demi-journée, c'est qu'il arrive au moins, au minimum, à gagner 1 ou 2 jours dans son temps. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect valeur ajoutée, disponibilité. On parle de temps de cerveau disponible, fidèle à Patrick Lelay, que je trouve assez intéressant. Mais c'est aussi les générations. Et ça, tu en parles un petit peu dans ton livre. Tu parles qu'il y a vraiment une rupture générationnelle, un changement dans les habitudes, surtout sur les nouveaux décideurs.
Ouais, dans les points de rupture, donc il y a ce qu'on évoque, c'est la difficulté de capter l'attention en 2026, ouais. C'est une évidence. Il y a un autre sujet alors, comment c'est connu, on l'aborde souvent sous le volet account-based marketing, ABM, ouais. Et le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de décision avec un décideur unique. Et je trouve que il y a un manque des fois de compétences. C'est pas gentil ce que je dis, mais des fois il y a un manque de compétences des équipes commerciales. Il y a une difficulté à avoir la donnée des cercles de décision. Mais aujourd'hui, très clairement, c'est ce qu'on évoque aussi dans le livre plus largement, mais on a besoin d'influencer une décision pour être dans la to-do list,
oui,
des 3, 4, 5 fournisseurs qui pourraient être retenus. Et en fait, aujourd'hui, par simplicité, les commerciaux parlent aux personas qu'ils connaissent le mieux. Et donc, comme ils ont l'habitude d'avoir toujours les mêmes personas avec qui ils sont à l'aise, bah, ils vont parler avec eux. Mais aujourd'hui, on a besoin de faire monter son patron dans une vente à enjeu pour qu'il puisse parler d'égal à égal avec le décideur, ouais, de l'entreprise. On a besoin de discuter, en tous les cas, d'influencer, pas forcément de discuter, mais d'influencer le DAF. Et que ça, et donc on va parler aujourd'hui de plutôt au lieu de parler de cercle de décision comme on parle en ABM, moi je vais parler dans le livre de cercle d'influence. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin d'influencer son marché, d'influencer la prise de décision dans un cercle assez large d'interlocuteurs, et y compris la nouvelle génération qui n'est peut-être pas au poste de décision aujourd'hui, mais qui est en poste et qui globalement est écoutée. Et donc on voit bien qu'on a un changement complet entre capter l'attention, qui devient une denrée très rare, être en capacité de parler aux bons interlocuteurs, et troisième élément, ben on voit bien que on a saturé un peu, malgré tout, les réseaux sociaux, on a saturé le contenu, etc. On parle d'infobésité aujourd'hui, et donc on a besoin de retrouver de l'authenticité, et on a besoin aussi de repositionner le branding de sa marque, son positionnement. Qu'est-ce qui fait ma différence? Quelle histoire je raconte? Quel storytelling? Comment
Ah
j'incarne
ben, je
mon
suis à
entreprise?
2000% avec toi. Par exemple, moi, dans le domaine de la relation client avec Eloquent, on a une solution de sonde de contact et d'enquête client collaborateur. Et c'est vrai que les gens disent, mais pourquoi vous? Ouais, on connaît telle personne, telle personne, telle personne. Et c'est vrai que depuis un certain temps, on avait travaillé sur certains aspects, l'effet waouh, qui était pas mal. Et là, en fait, on travaille pas mal sur les neurosciences. Et c'est vrai qu'on t'apporte quelque chose qui est 1-0, qui est totalement. On a un truc en plus et les autres n'ont pas. Là, tu te différencies. Et là, on est dans le top, on est top 5, le top of mind, comme on le dit. Quand tu dois être au top 3, t'es dans la shortlist. Et dis, ah ouais. Ça, c'est quelqu'un qui compte. Et ça, je suis d'accord avec toi que tu as une saturation. Et si tu n'es pas identifié ou si tu n'es pas identifié comme le bon acteur, c'est vraiment compliqué. Et cet aspect de branding devient clé, quoi. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que pensent mes clients de moi, quoi?
Ouais, complètement. Et le branding a été un peu le parent pauvre des 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 10 ans, on a automatisé beaucoup. Hein, parce que on parle d'IA, et c'est presque un tsunami qui nous arrivait dessus, mais il y avait déjà de l'automatisation, et c'était déjà plus ou moins de l'IA en partie. Il y avait des outils qui permettaient. Et donc, bah, on a saturé un peu la capacité de toucher ses cibles. Donc, on est venu saturer effectivement l'attention disponible. Le branding a été le parent pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, on en a oublié. Bah, comment j'exprime ma différence, comment j'incarne, quels éléments de langage j'utilise, et le côté créativité. Tu vois, on voit dans des propositions commerciales aujourd'hui un retour de la créativité qui augmente fortement le taux de conversion. Pourquoi? Bon, on a besoin de ramener, je veux dire, aujourd'hui, déjà, il faut être dans la shortlist, donc c'est ce qu'on évoque, hein, l'influence du cercle de décision, la capacité à pouvoir capter l'attention, présenter sur des moments beaucoup plus courts la valeur ajoutée qu'on a, mais on a besoin aussi sur des éléments de compréhension, des éléments de communication, être identifié, visible, créer quelque part un effet un peu waouh, avoir des éléments de créativité, y compris dans la présentation commerciale. Qui au final est des fois un peu le parent pauvre du commercial. Hein. Des fois, tu vois des presses présentées, le template est pas le bon, c'est pas chouette. Ben non, ça, c'est pas possible. On doit revenir dans des éléments de langage, de compréhension, d'authenticité, etc. Donc, ouais, on est sur un phénomène fort
Ouais, mais je te
de
rejoins
changement.
et je trouve qu'il y a de moins en moins de la place pour, je dirais pas de l'amateurisme, mais du générique. On le voit bien, tu l'as dit sur la présentation, il faut que ça soit adapté à moi, le logo, etc., etc. Les démos soient personnalisées. Il faut aussi que le commercial pose des questions. Et c'est vrai que l'analyse des conversations téléphoniques via le prisme commercial, questions ouvertes, questions fermées, est-ce que j'ai laissé le temps de parole, est-ce qu'il y a un moment de rupture, est-ce que j'ai été dans le bénéfice et pas la caractéristique. Ça c'est un niveau d'exigence et une habitude qui change. Mais c'est vrai que ça, c'est plus pour la partie commerciale. Justement, sur la partie influence, là, tu nous as dit qu'il fallait changer un petit peu les choses, qu'il fallait élargir son cercle d'influence. Est-ce que tu peux me donner un exemple ou des conseils que tu donnerais à une marque B2B, justement, qui se dit, bah, OK, Michel, ça me parle. Je ne suis plus, je ne suis plus que consulté avant quasiment la phase de cahier des charges. Il y a toute une partie où je ne suis où les gens se débrouillent tout seuls. Comment je fais pour justement influencer mes clients de manière concrète, enfin mes prospects?
Bah, ce que tu évoques et qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va être beaucoup plus focus sur l'avant, donc l'avant-vente, du coup vraiment pour être visible, et sur la conversion. Pourquoi? En fait, globalement, alors il y a des chiffres qui courent un peu partout, mais on va dire que les chiffres disent que 60 à 70% du coût de la vente est fait sans le commercial. Donc
Ouais.
aujourd'hui, globalement, bah, donc ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est vraiment en amont qu'on a une perception de l'entreprise et qu'elle peut être dans cette fameuse shortlist, comme on dit. Et pour être dans la shortlist, bah, il y a plusieurs éléments. C'est des éléments de compréhension du coup de la proposition de valeur de l'entreprise. Et ça, ce n'est pas toujours clair. C'est-à-dire qu'en fait, et je comprends quand on discute avec des entreprises du B2B, elles vont te dire naturellement, ah non, mais nous, on a refait notre plateforme de marque il y a 10 ans, ça sollicitait tous les services, ça a duré 4 mois, on a accouché du truc, donc mission, etc. Et en fait, ce n'est pas ce qu'on évoque. Ce qu'on évoque, c'est retravailler ces éléments de langage, son concept de com, la manière de présenter la valeur ajoutée de l'entreprise qui évolue. Aujourd'hui, la proposition de valeur de l'entreprise de 2025, elle n'est peut-être pas du tout la même qu'en 2026 dans un marché qui est en défiance, qui est compliqué, où il y a de l'ultra-concurrence. Et donc, on a besoin de remettre en perspective en continu, même si je sais que bah, c'est difficile, sa proposition de valeur, son expertise et ses leaders d'opinion qui prennent la parole. Et donc, les conseils qu'on peut donner, c'est on est obligé d'être en mode agile. C'est-à-dire qu'en fait, on peut plus se dire j'ai bossé ma plateforme de marque, c'est bon. J'ai ma valeur ajoutée, ma proposition de valeur qui est très claire en 2025. Tout est bon, continue. Ben non, en continu, premièrement, on doit se mettre en mode agile et on doit en fait s'adapter au marché, s'adapter au changement de comportement en continu. Ça, c'est un conseil numéro un. Et pour faire ça, on doit aujourd'hui très clairement influencer son marché, influencer ses prospects. Et pour ce faire, eh ben, on va reprendre des éléments de concept de com, de langage, de créativité qui font qu'on va avoir effectivement des contenus qui on a été focus sur le contenu, l'inbound marketing, etc. Ce qui est très bien. Il faut du contenu qui parle à la cible et qui répond à ses problématiques et ses objectifs. On reste là-dessus, mais on vient y rajouter des éléments de créativité, de concept de com, de langage, de visibilité, de notoriété pour l'entreprise. Donc en fait, ce qu'on a un peu oublié avant, on faisait que de la com, et en fait après on est venu faire que de la lead gen. Et on est venu faire du contenu qui parle à la cible assez expert, c'est plutôt bien, mais on a complètement oublié ces éléments de différenciation visuelle, etc. Et on y rajoute des ingrédients extrêmement forts en 2026, c'est qui incarne l'entreprise, qui porte l'expertise. Et donc, j'ai même un peu initié je dirais un autre mot dans le livre que de personal branding, j'ai parlé de CEO branding. Aujourd'hui, le dirigeant de l'entreprise doit incarner son entreprise. Il doit raconter le storytelling de sa boîte, pourquoi il a créé sa boîte, pourquoi elle est performante aujourd'hui, qu'est-ce qu'il apporte au marché. Et il doit prendre la parole dans des tables rondes, il doit animer son profil LinkedIn pour devenir un leader d'opinion. Et donc, on doit incarner l'entreprise, on doit lui redonner des éléments de différenciation par la créativité, par le langage, par la proposition de valeur, etc. Et donc, dans les campagnes qu'on va dérouler, ben, on doit faire des campagnes plutôt style ABM, où on a des cibles clairement identifiées, avoir une approche très cercle de décision, voire cercle d'influence, et derrière, être s'assurer d'être dans la shortlist, la fameuse shortlist, et d'être plutôt dans le premier que le cinquième. Et voilà, donc on doit ramener de la valeur, de la force et de la puissance dans ce qu'on fait. Et donc c'est une forme de rééquilibrage, en fait, hein, ce qu'on évoque, c'est qu'on va être moins focus lead gen, je veux du lead, je veux du lead. Ben non, on va faire moins de volume, plus de qualité et apporter plus de valeur.
Ouais, mais je te rejoins à 100%. Parce que par exemple, chez Locan, donc je t'ai parlé de cet aspect positionnement un peu plus sur les neurosciences pour se différencier. On a bien sûr aussi, j'avais adoré l'intervention dans Intelligence Marketing Day d'April Dunford sur la marque et le positionnement où elle disait, oui, tu as ta marque dans ton positionnement, mais tu dois le raccrocher à quelque chose que les gens veulent écouter. Et par exemple, nous, c'est clair que tu n'as pas d'écoute de la part du marché si tu ne rajoutes pas de l'IA quelque part. Alors il y a une saturation. Les gens vont dire, j'en ai marre, que les gens me parlent de l'IA, mais comme c'est dans leur objectif, si tu ne dis pas que tu as une plateforme qui est boostée par l'IA, et tu arriveras pas. Par exemple, on a fait un webinaire pas plus tard qu'il y a 15 jours, c'était passer d'une solution on-premise de centre de contact à une version SaaS. On a eu un mini résultat, ouais. Quand on a dit passer une solution SaaS boostée à l'IA, ah, là tout de suite, on a revu encore un
Oui.
pic. Donc il faut passer ça. La prise de parole, je te rejoins à 200%. C'est vrai que chez nous, en fait, notre dirigeant, Laurent Duc, historique, a passé la main. Et c'est vrai que là, pendant un moment, c'est moi qui suis un petit peu le leader d'opinion sur la marque et qui parle beaucoup. Mais mes collègues m'ont dit, mais Fred, il faut que tu changes un peu tes trucs d'habitude, parce que quand on fait un webinaire, un truc, tu dis bonjour, je vous donne rendez-vous à tel jour pour tel truc. Ils disent ouais, mais c'est tout le temps la même chose. Et c'est vrai que la dernière fois, on l'a fait avec ma collègue Sixtine, et on l'a fait un petit peu en mode journal télé. Alors Fred, qu'est-ce qu'on fait? On fait ci, on fait ça. C'était beaucoup plus frais. Et on a fait aussi une version coulisses où on était en train de montrer les coulisses d'un webinaire, le studio et tout ça. Et c'est vrai que c'est des choses qui changent. Et tu as parlé de cercle d'influence. Je te rejoins à 1000%. Par exemple, il y a Nathalie Namias qui est en train de faire des repas. Et c'est vrai que moi, on m'a dit pendant longtemps, ouais, fais des déj et tout ça. Je dis, ouais, mais déj, c'est, enfin, les dîners ou déj, c'est pour les commerciaux. Le marketing, c'est pas à nous de les organiser. Et en fait, c'est vrai que on le voit de plus en plus se créer ce lien. Et je l'ai fait avec Assurenco il n'y a pas très longtemps. Un déjeuner sur le domaine de l'assurance avec voici des conseils que vous allez avoir pour améliorer telle chose. Cet aspect informel permet de créer du lien. Et tu l'as dit, ce ne sera pas du lead gen à court terme, mais c'est du lien, c'est de l'influence. Quand tu as 20 personnes qui travaillent dans le domaine de l'assurance et que tu vois lors d'une soirée, ils se souviennent de toi. Par contre, tu l'as dit, il faut travailler son pitch, travailler son positionnement, travailler sa marque. Autrement, bah, ça passe par là et ça repasse de l'autre côté.
Mais c'est un sujet que j'évoque, puisque je donne il y a une boîte à outils en fait dans le livre, hein, où je donne quand même pas mal d'éléments concrets. Et je parle de ces fameux rendez-vous que j'ai appelés des rendez-vous intimistes, qui est un format aussi qui est très tendance, qui est l'idée d'avoir une invitation privilège, prestige, où effectivement on est 10-15 invités dans un lieu assez sympa où il y a toujours un petit effet waouh. Et effectivement, bah, ce dîner, c'est un temps. Je vais appeler ça presque maintenant des micro-moments. Tu vois, c'est un micro-moment pour ces 12 personnes qui sont invitées et pour lesquelles il y a des échanges extrêmement intéressants. Et ça répond à plein de critères, l'intimité, être entre pairs et entre problématiques communes, et puis passer un bon moment de convivialité. Donc en fait, ce qu'on évoque, et je trouve ça intéressant en fait, et le livre, il arrivait sans doute à un point nommé, c'est de se dire, l'IA est partout, comme tu dis. Et comme c'est à la mode, si t'en mets pas, ça marche pas. Pour autant, on doit nous tous reconsidérer la place de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas de se faire embarquer par l'IA dans un modèle qui ne nous conviendrait pas. La vente est avant tout de l'humain. On veut savoir avec qui on va travailler. Moi, j'ai de plus en plus dans les ventes, ce que je trouve très intéressant, mes interlocuteurs qui me disent, bah, OK, Michel, on va bosser ensemble, mais qui va être l'équipe projet? Est-ce qu'on peut manger ensemble un midi pour les rencontrer et voir bah, c'est qui les profils pour
Est-ce
voir,
qu'ils vont
voilà.
bien comprendre? Est-ce qu'ils vont bien comprendre qui on est, ce qu'on fait? Et je suis d'accord avec toi, ce qui a fait la différence parfois avec des prestataires qu'on a eus, c'est se rencontrer. Et c'est vrai que de moins en moins les gens font des choses physiques, mais quand tu vas voir une personne, tout de suite ça fait la différence, en particulier en B2B.
Ouais, ça fait la différence et je pense qu'il faut qu'on soit aussi maître du jeu, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un mode essorage de l'IA pour lequel l'IA nous dicterait presque la méthode de demain, là où globalement on doit aussi tous sur le marché initier une approche où l'IA amplifie, où l'IA est un formidable assistant dans plein de domaines, mais replacer aussi la place de l'humain. Dans des tactiques, dans des approches, dans des dîners intimistes, dans des événements, dans la relation client, à nous d'être très très bons et avoir un niveau d'exigence encore plus élevé qu'on avait sur les livrables, dans une vente, sur les enjeux. Justement, l'IA doit nous aider à mieux appréhender les enjeux, à faire gagner du temps aux clients, avoir des réponses beaucoup plus pointues, des analyses qu'on ne pouvait pas faire en avant-vente. Bah, là, l'IA nous permet vraiment d'être très crédible dans l'expertise qu'on a, parce qu'elle permet d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on va montrer au client, notre capacité à répondre à ces enjeux. Mais il faut qu'on laisse la place de l'humain, parce qu'au bout du bout, ça sera quand même des humains qui bosseront avec des humains et qui auront besoin de se dire les choses quand le dossier ne va pas assez vite, d'évoquer des évolutions de l'entreprise, d'organisation, etc. Et donc voilà. Et donc je pense qu'on a aussi un enjeu, nous. C'est de que l'IA amplifie, aide à être meilleur, mais ne prenne pas non plus toute la place. Donc en fait, bon, voilà. Et le livre, il ne parle pas d'IA. Pour ceux qui veulent acheter un livre d'IA, il y en a des très bons à lire qui sortent de mon ami Mike Levy en ce moment. Mais voilà, moi j'ai replacé l'humain au cœur avec des tactiques très crédibles, les rendez-vous intimistes, le SEO branding, etc. La création de communautés, etc. J'ai replacé l'humain au cœur, l'événementiel, que j'évoque beaucoup aussi dans le
Ouais.
livre. Et voilà.
Ouais, mais c'est vrai que tu l'as dit, cette fameuse dark sociale qu'on évoque souvent, avec, ben, par exemple, moi, c'est vrai que les groupes WhatsApp, même les groupes de discussion LinkedIn, ça devient un nouveau canal de communication. Et surtout, créer du lien. Tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce qui va différencier les uns des autres? Là, par exemple, tu vois, j'ai mon groupe WhatsApp de mes clients. Régulièrement, en fait, ben, j'avais pas grand-chose à leur apporter depuis un certain temps. Et puis maintenant, dès que j'ai un contenu à valeur ajoutée, un atelier, un machin, je leur file des slides. Et quelque part, ça permet de continuer à créer la présence avec des gens qui finalement sont pas là tout le temps avec toi ou qui lisent pas tes communications. Pareil, on a un groupe LinkedIn avec d'autres influenceurs dans le domaine en fait de l'expérience client et relation client. Et quelque part, il y a une des personnes qui fait du théâtre. Je suis allé la voir et on a créé du lien. Et ça m'a permis de créer du lien avec la personne qui était avec qui je discutais juste comme ça en relation de travail. Ces aspects-là, je trouve qu'ils sont vraiment devenus différenciants. Et dans cette ère de l'IA que tu as noté, créer du lien entre les personnes, ça vraiment, ça fait toute la différence, quoi.
Ouais, c'est une tendance. Alors, il y a une vraie tendance communautaire. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on va dire que ça remplace un peu les clubs. Ça digitalisait en fait les clubs entreprises qu'il y avait. Hein. Tu avais des clubs de DAF, des clubs entreprises régionaux. Donc, la digitalisation avec des outils, il y a des plateformes d'ailleurs hein, qui existent qui permettent de piloter ce type de communauté. Et puis, dans les outils les plus simples, c'est effectivement des groupes WhatsApp. Mais je pense qu'effectivement, ça permet en fait de créer, c'est pareil, des espaces dédiés entre pairs. Ça peut être e-commerce, ça peut être DAF, etc. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et derrière, par contre, la vraie difficulté, c'est de l'animer. C'est-à-dire que, parce que animer une communauté, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'interactivité. C'est-à-dire que ce n'est pas un flux d'informations. Et c'est le plus difficile. Mais c'est souvent né d'ailleurs à partir d'éditeurs de logiciels qui étaient en bêta-test et qui créaient du coup comme ça des communautés pour avoir des retours sur l'outil. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est des lieux de co-création parce qu'il y a des problématiques qui apparaissent. Et qui sont autant de sujets à traiter en problématique ou à traiter en contenu, c'est hyper intéressant. C'est comment dire, bah c'est ces fameux feedbacks qu'on peut avoir, c'est la promotion des nouveautés qu'on peut faire. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est effectivement un moyen d'échanger sur des moments de networking qui sont organisés. Et puis, c'est un outil de fidélisation client, comme tu l'évoques. Et donc, ouais, dans le dark social, eh ben, faudrait pas sous-estimer ce qui se fait à côté. Y compris dans des communautés physiques, hein. Il y a des communautés aujourd'hui qui fonctionnent très bien en France où
Ah oui,
t'as,
ben, par exemple, dans le domaine d'expérience client, nous, on a Agora Manager, qui en fait a Agora Expérience Client, Agora DAF, Agora Sécurité. Et c'est vrai qu'ils sont 5-6 par département et ils arrivent à fédérer un max de personnes. Il y a par exemple le gala de la relation client, ils sont quasiment 250. Et il y a des annonceurs, il y a du lien qui se crée, ils font des vidéos, ils font des contenus. C'est vraiment assez incroyable, quoi. C'est incroyable.
ouais, c'est en fait ce qu'on évoque, que je trouve intéressant, toujours dur de parler en 30 minutes du livre, mais ce qu'on évoque, c'est qu'en fait, il y a plein de champs des possibles, de tactiques, de stratégies qu'il ne faut pas oublier. On en évoque quelques-unes. Et bah, ça vaut le coup, je trouve, de se pencher, de se dire, bah, moi, en 2027, comment je vais faire? Parce qu'au final, je le redis, on vit une vraie révolution du marketing B2B. On ne fera pas, on n'aura pas les mêmes ingrédients dans la recette en 2026-2027 qu'on avait en 2025 et 2024. Il y a un vrai changement de fond qui s'opère et ce changement, bah, faut le prendre en compte à la taille de son entreprise, par rapport à l'affinité qu'on a par rapport à des tactiques ou des sujets. Mais je trouve que c'est une belle année pour reposer en fait ses pratiques, son plan d'action. Et moi, il y a un enjeu que je trouve quand même déterminant. Qui m'agace un peu, oui, Frédéric, il y a des trucs qui m'agacent, c'est qu'aujourd'hui, globalement, on a oublié aussi d'avoir des positions stratégiques. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que ça manque de stratégie dans l'entreprise. Alors, on n'est pas sur des stratégies à 5 ans et 3 ans, hein, très clairement. On est sur des temps beaucoup plus courts, mais on a besoin de se dire où je vais, comment j'y vais, à qui je parle, c'est quoi ma proposition de valeur. Il faut absolument que les boîtes, elles viennent remettre dans une forme agile leur plan stratégique à 3, 6, 9, 12 mois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se dire, je vais où? Parce que le marché bouge beaucoup, il y a de l'ultra-concurrence, il y a de la défiance, on est dans des conjonctures complexes au niveau économique. Eh ben, il faut se faire des stratégies plus courtes, efficaces, pour lesquelles on mobilise les équipes et on travaille un peu sur les synergies d'équipe, la symétrie un peu des attentions au sein de l'entreprise pour réussir. Mais il faut qu'on lève la tête un peu du guidon et qu'on retravaille un peu et éventuellement des nouvelles tactiques pour avoir des approches un peu différenciantes. Voilà, c'est un peu
Ouais.
mon. Toi, c'est un peu le
Alors
coup de gueule.
justement, si on peut finir aussi par un point, tu as parlé bien sûr d'influence. Quel est ton point de vue sur les influenceurs? Parce que moi, ce que je constate de ma petite fenêtre sur le domaine de la relation client, c'est que bah, il y a une saturation qui est de plus en plus importante et il y a un appel à des gens qui savent mobiliser des communautés, qui savent générer en fait des interactions, qui ont une base newsletter, qui ont une base interaction. Alors c'est vrai qu'on parlera dans le marketing de plein d'influenceurs connus, mais moi, dans mon domaine de B2B, je vois bien que par exemple, il y a Marine Deck qui est spécialisée dans l'influence relationnelle. Client, elle devient porte-parole de marque. Moi, de mon côté, j'ai eu des partenariats via la Brigade du Web au travers d'éditeurs de CRM, comme que tu connais, vous êtes revendeur d'HubSpot, intégrateur. Et en fait, on voit bien que les marques cherchent à aller gagner de la visibilité avec des personnes qui savent faire, qui savent mobiliser des communautés. Toi, dans ton livre, dis-nous un petit peu quel est ton point de vue là-dessus, puisque c'est vrai que vous avez quand même pas mal d'expérience dans le groupe MV.
Ben en fait, j'ai abordé ces deux sujets avec deux angles différents. J'ai pris l'angle de créer des influenceurs de l'entreprise que je vais appeler plutôt des leaders d'opinion.
Ouais.
Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises B2B ont besoin de construire des profils de leaders d'opinion. Pourquoi? Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, quand tu es dirigeant d'une boîte et que tu dois choisir un prestataire, eh ben je pense qu'il faut que les dirigeants se parlent aussi entre dirigeants. Et pour se parler, ben il faut être identifié. Et il faut incarner sa boîte. Et donc, je défends l'idée que dans les boîtes B2B, il est venu le moment où chacun doit avoir des leaders d'opinion. Alors, ne sera leader d'opinion celui qui est à l'aise et crédible. Hein. Je veux dire, si tu es PDG et que tu n'es pas du tout à l'aise parce que tu es plus technique, etc., il n'y a pas de sujet. Peut-être que ça sera le DG. Mais en tous les cas, on doit retravailler dans les codires une équipe qui est leader d'opinion et qui prend la parole. C'est ma conviction profonde. Et tout ça s'orchestre sur les réseaux sociaux, sur
Oui,
des
puis
contenus,
surtout,
sur des prises
tu
de
payes
parole.
pas un influenceur, quoi. C'est ton truc, c'est
Voilà.
ton service marketing, tu maîtrises la com, tu maîtrises la
Voilà.
visibilité.
Et à côté de ça, eh ben on voit bien que la partie média qui est très utile dans plein de domaines, bah, tu as des médias spécialisés dans la cyber, tu as des médias plutôt génériques, etc. Et il y a quand même une vraie évolution des médias, parce qu'aujourd'hui, tu peux régionaliser, tu peux cibler des profils, etc., très précis dans les médias, mais vient se compléter aux médias des influenceurs qui, au final, ont créé eux-mêmes leurs propres médias autour de leur personne, parce qu'à la base, les influenceurs, c'était plutôt des professionnels très bons dans un contenu,
Ouais.
très spécialisé dans un domaine. Et Marine Deck en est un bon exemple. Elle a à la base une très bonne expertise de son sujet, et elle a su, autour de contenu à forte valeur ajoutée, bah, créer une marque Marine Deck, hein, c'est ce qu'on parle, légitime, crédible. Et qui du coup fait qu'elle est influenceuse et qu'elle a pu du coup doper ses audiences et sa visibilité sur ses profils. Et maintenant, bah, Marine Deck est un média. Et donc, aujourd'hui, quand on veut effectivement performer sur un secteur d'activité particulier, eh ben, on peut aller effectivement travailler, pour moi, le côté influence de l'entreprise avec des leaders d'opinion. Voilà. On doit s'adosser, bien évidemment, à des influenceurs crédibles sur son marché. Et voilà, et puis on doit continuer aussi à travailler son branding, les médias traditionnels. Donc en fait, on vient reconfigurer une sorte d'équilibre de force. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que ce qu'on met en place soit efficace et surtout porte très clairement l'image qu'on veut véhiculer sur son marché. Donc en fait, c'est vraiment ces sujets-là. Mais ouais, le marché bouge un peu avec des atouts un peu différents et des tactiques différentes. Moi, j'invite à se réinterroger sur comment on est perçu par le marché, quelle est notre différence, quelle est notre valeur ajoutée et quelle tactique j'utilise. Et j'invite à être agile et à aussi tester des nouveautés.
Ouais, mais c'est vrai que c'est un vrai changement aussi, parce que dans les entreprises B2B, on est un peu tendance à se dire la com fait la com, et le dirigeant, finalement, il n'est pas acteur, enfin, il n'est pas, c'est pas lui qui est au cœur de l'action. Là, tu dis, maintenant, il faut les dirigeants qui incarnent et qui arrivent à communiquer. Comment tu fais justement ou qu'est-ce que tu conseillerais pour se dire, OK, maintenant, le DG qui n'a pas l'habitude, il va devenir vraiment le porte-parole de l'entreprise. Comment tu ferais
Alors,
pour modifier ça?
Ouais, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut trouver dans le CODIR des profils qui sont à l'aise, d'accord?
Ouais.
Parce que du coup, on peut aussi avoir des profils qui disent, moi, je suis incapable de prendre la parole, je veux pas, je suis técos, ou voilà. Non, mais ça peut, voilà. Donc, c'est qui et qui a envie de le faire, qui serait à l'aise pour le faire, et qui est crédible? Hein, parce qu'il s'agit aussi de porter l'expertise de l'entreprise. Donc, il y a déjà ce premier travail à faire. Et ensuite, je veux dire, c'est pas un gros mot de se faire coacher pour la prise de parole. Hein. Je veux dire, on a tous fait des formations prise de parole en public, etc., plus
Oui.
jeune. Et donc, bah, il faut se faire coacher pour être à l'aise en prise de parole. Et ensuite, il faut que la com construise en fait complètement, du coup, un plan, mais autour du profil qui a été choisi. C'est-à-dire qu'en fait, je vais donner un exemple aujourd'hui.
Ouais.
Donc, quand on fait du coup de l'ads, alors je suis pour ceux peut-être qui nous écoutent, de l'ads sur LinkedIn, c'est souvent on le fait sur la page entreprise. Donc,
Oui.
on va promouvoir la page entreprise, on va gagner des abonnés. Maintenant, il existe la possibilité de promouvoir des posts individuels. D'accord? J'en ai fait un la semaine dernière. J'ai fait la promotion d'un de mes posts individuels qui avait beaucoup de valeur. C'est-à-dire, j'ai 100 000 impressions
100 000, ah oui.
pour 300 euros. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ces tactiques-là, elles fonctionnent. Et donc, il faut repenser la manière de prendre la parole autour de leaders d'opinion. Et il faut, du coup, bah, venir faire des posts à valeur ajoutée, etc. Quand un dirigeant sur son marché, sur un événement majeur de son secteur d'activité, et sur une table ronde, et qui donne le là du marché, la vision du marché, les tendances du marché, et que derrière tu fais des photos, que tu captes la vidéo, que t'en fais, que tu la snacks en plusieurs morceaux, que
Ouais.
tu en fais des articles, que tu en fais des posts sur LinkedIn, t'imagines l'ampleur que tu donnes au dirigeant qui a pris la parole et l'amplitude que ça peut donner sur son marché. Je veux dire, tu mets ça à l'équivalence de d'autres moyens que tu donnes ou d'autres tactiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est qui l'incarne. On l'a vu, on connaît son nom, son prénom, on l'a vu pour de vrai. Et moi, je défends l'idée de ne pas se faire imposer toutes les tactiques par ce qui nous arrive des US. Il faut aussi qu'on revienne dans l'humain, dans l'incarnation, dans le branding, dans la créativité, dans l'image de marque, etc. Ça, c'est, je veux dire, il faut qu'on apprenne aussi à avoir des actifs dans l'entreprise. Et les actifs, bah, des fois, c'est ton image de marque. C'est un actif qui est précieux. Ta data est un actif qui est extrêmement précieux. Donc, il faut aussi penser à ces actifs et il faut continuer à capitaliser sur ces actifs.
Ouais. Mais quelque part, ce que je trouve intéressant dans ton discours, c'est que on a parlé beaucoup au départ de visibilité entre guillemets naturelle vers l'inbound. Ce que j'aime bien et que tu as rajouté, c'est le fait qu'il faut accepter de payer aussi. Parce que la saturation des audiences, comme tu l'as dit, ok, tu vas publier du contenu intéressant, de marque, etc. Mais il faut savoir remettre un petit billet pour aller chercher cette visibilité supplémentaire. Comme tu l'as dit avec cette campagne, t'offres
Ouais,
leader ad sur LinkedIn.
ou avec des influenceurs, comme
Ouais.
tu dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc on voit bien que ce qu'on est en train d'évoquer, en fait, c'est en fait bah, de remettre en perspective ces tactiques, ces approches, parce que bah, ouais, c'est 2027, c'est pas 2026. Et 2028 sera pas pareil non plus. Et donc, bah, il faut bouger les lignes, il faut essayer, il faut faire des tests, et il n'y a pas de souci. Il faut que le patron, par contre, il accepte aussi qu'à partir du moment où on a posé la stratégie, on puisse tester des choses un peu différentes et se faire un feedback sur les KPI qu'on voulait atteindre. C'est-à-dire, il faut bouger les lignes, donc il faut qu'il y ait un peu plus d'agilité, un peu moins de pression sur les équipes marketing et plutôt leur donner un peu plus d'autonomie pour tester des choses qui fonctionnent. Et puis, il faut que les dirigeants s'emparent clairement dans l'acte de vente d'une présence sans doute plus importante pour crédibiliser l'entreprise et l'incarner.
Ok, alors on arrive quasiment à la fin de l'entretien. Pour ceux qui veulent acheter le livre, est-ce qu'il y aurait déjà les 3-4 étapes clés ou qu'est-ce qu'il faudrait faire demain pour se lancer? À part donc bien sûr, un, commander le livre et le lire, ce serait quoi la première étape en attendant qu'il arrive par la poste?
Alors là, la première étape avant qu'il arrive par la poche, je pense qu'il faut, c'est ce que j'évoque un petit peu dans le livre, c'est que l'enjeu numéro un, qui sort de toutes les études et que j'évoque largement dans le livre, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, il n'y a pas de vente sans confiance. Et donc, il faut, j'ai envie de dire, déjà un petit peu réorganiser l'état d'esprit de l'entreprise et de l'ensemble des équipes, ce qu'on a longtemps appelé l'asymétrie des attentions dans l'entreprise. Le fait que tout le monde soit aligné à l'accueil, dans la relation client, comment dire, à la comptabilité que ça. Et donc, il faut qu'on arrive à réorganiser une entreprise autour d'un projet qui est que le client est au centre et que le client doit avoir confiance en lui. Et donc, la confiance, c'est pareil, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un capital, le capital confiance. Et donc, moi, je pense que le point numéro un, c'est de rescanner son entreprise en étant très humble et en se disant, est-ce que globalement, aujourd'hui, on a confiance en nous sur le marché? Est-ce que à l'accueil, c'est bien? Est-ce que c'est bien la compta? Est-ce que c'est bien dans le discours du commerce? Est-ce que les documents qu'on produit sont de qualité? Moi, je pense qu'il faut remettre au cœur de toutes les entreprises le client, parce qu'en fait, c'est la raison d'être de l'entreprise, et autour de la confiance qu'on doit construire, parce qu'en fait, la confiance amène une relation durable avec tous ses clients et ses prospects.
Ouais, je te rejoins à 100% parce que là, je discutais avec Patrice, qui est un des fondateurs de Kraken, qui a mis en place le Love Score. Love Score, c'est l'attachement à la marque. Et c'est vrai que je trouve que c'est extrêmement pertinent parce qu'en fait, tu dis, tu as la satisfaction d'un côté, mais tu as aussi l'attachement à la marque avec des gens qui sont défiants, qui sont promoteurs, etc. Et c'est vrai que si tu sais pas ce que pensent tes clients de toi, ça peut être compliqué. Et c'est vrai que nous, on fait une météo client de manière assez régulière. Et avec cette météo client, on sait chez un client si c'est orageux, si c'est le plein soleil. Et c'est vrai que c'est important parce que quand tu vas demander à faire des témoignages clients, faire des webinaires, participer à des événements, tout de suite, si tu as des clients qui sont au beau fixe, tu le sais, s'ils sont pas en très bon terme, bah, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un client, à un moment donné, il y aura un point de rupture et il dira hop, je bascule si tu n'es pas capable de faire
Oui, puis un
confiance.
client satisfait, c'est premièrement un gros warning pour se dire qu'il faut tout de suite qu'on agisse et qu'on fasse mieux. Et du coup, bah, voilà. Mais c'est aussi des insights pour améliorer son offre produit, améliorer sa relation client, ce qu'on évoque. Créer la confiance, c'est aussi avoir une analyse de ce qui dysfonctionne pour pouvoir l'améliorer et vraiment se donner une image positive pour qu'on soit numéro un dans la shortlist.
D'accord. Alors, si on veut avoir le livre, comment on fait, mon cher?
Eh ben, on va dans les bonnes librairies qui l'ont, la FNAC, sur le site de la FNAC, le site d'Amazon, etc. Donc, enfin, je suis diffusé un petit peu partout grâce aux éditions Guibert. Et voilà, et je vous invite effectivement
Pour
à...
24 € TTC, 255 pages, quasiment 300, donc ça fait quoi? Allez, 10 centimes la page, un concentré pour faire ressortir sa marque et devenir un leader d'opinion sur son marché. Bah, merci Michel, hein, pour ce livre
Merci
qui est
à toi de ton
passionnant.
invitation.
Ouais, puis il y a quelques témoignages assez intéressants. Il y a Jonathan Chan qui donne quelques exemples. Tu as aussi mon collègue Alexandre Barthène d'Agorize qui est dedans. Donc j'ai reconnu quelques témoignages qui étaient assez intéressants et ça m'a fait vraiment plaisir de lire. Surtout que c'est vraiment clair et facile à lire. Si vous pouvez même le parcourir rapidement, voir les focus, les exemples, et vous aurez comme ça les informations essentielles pour devenir une marque de référence dans votre secteur d'activité. Bah,
Merci
merci
à toi,
Michel,
Frédéric.
à bientôt.